Radio Kapi.
On ne se découragera jamais. On a un objectif d'accompagner le pays pour arriver à une consolidation de la paix. Déclaration de la chef de la MONUSCO à la fin de son séjour hier à Beni. Bintou Keïta est également l'invité de la rédaction ce matin. Lancement hier à Lubumbashi des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Durant ces assises, les participants venus de toutes les provinces réfléchissent sur le système éducatif en vue de son amélioration. La coalition Lamuka projette d'organiser une marche le 15 septembre prochain. Elle a à cet effet déposé un mémo à la CPI, à la E, afin que celle-ci documente les éventuelles violations de droits de l'homme lors de cette manifestation. Bonjour à tous, on ne va pas se décourager, on ne se découragera jamais. On a un objectif qui est d'accompagner le pays pour arriver à une consolidation de la paix. Ces propos sont de la chef de la MONUSCO qui a quitté hier vendredi Beni où elle a séjourné pendant 72 heures accompagnée d'une forte délégation du leadership de la mission onusienne. Bintou Keïta dit repartir avec un esprit encouragé après avoir rencontré un certain nombre de responsables tant civils que militaires de la région. Bintou Keïta est au micro d'André Kitenge.
Je suis arrivée avec appréhension sur le fait que mon dernier passage ici, c'était le 15 avril dernier. Et le 15 avril dernier, c'était toute la période d'ébullition en ce qui concerne les sentiments anti-MONUSCO et anti-gouvernement. En fait, c'était anti-tout, d'une certaine manière. Et puis, je me suis dit, et d'ailleurs on me l'a dit dans une des réunions, comment avez-vous le courage de revenir à Beni quand on vous a dit, il faut que la MONUSCO s'en aille? Alors moi, je dis, comme je l'avais dit le 15 avril, on ne va pas se décourager, on ne se découragera jamais. On a un objectif qui est d'accompagner le pays pour arriver à une consolidation de la paix. Ça demandera à la fois les opérations militaires, les opérations non militaires. Ça demandera une communication améliorée de notre part de ce que nous faisons. Et ça demandera aussi une compréhension qu'on ne change pas, on ne fait pas des transformations profondes en quelques minutes. Donc, pour ce qui concerne l'état d'esprit dans lequel je repars en fait encouragée.
La société civile du territoire et de la ville de Beni s'est dit satisfaite de la rencontre avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Le président de la coordination urbaine de la société civile, ville de Beni, fait savoir qu'ensemble avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, ils ont abordé hier plusieurs questions afin que la paix revienne dans la région de Beni. Il s'agit notamment de la question sécuritaire et de la puis de la mission onusienne au FRDC. Pépin Kavota est au micro d'André Kitting.
Il a été question, n'est-ce pas, de passer à revue la situation sécurité de la ville de Beni et du territoire de Beni, voir ce que la MONUSCO fait exactement sur le terrain. Est-ce qu'elle accompagne les FRDC pour que la paix revienne à Beni? Mais il a été aussi question, n'est-ce pas, de passer à revue et ce qu'il y a comme état de siège pour voir est-ce que l'état de siège est en train de produire des fruits consommables à la population. Parce que la ville de Beni, tel que vous le savez, nous sommes en train de vivre une insécurité qui est, n'est-ce pas, accompagnée, n'est-ce pas, de viols, qui est accompagnée, n'est-ce pas, de vols d'argent et biens de valeur. C'est autant que nous lui avons demandé, n'est-ce pas, d'agir au temps opportun et même de porter nos recommandations aux institutions de la République pour que les choses changent chez nous à Beni. Il nous a dit qu'il va transmettre le message, il va lire, n'est-ce pas, ce que nous avons écrit, nous avons couché, et puis il a bien explicité, n'est-ce pas, ce que la MONUSCO fait et ce que la MONUSCO doit faire dans notre pays pour, n'est-ce pas, bouter dehors les ennemis de la paix qui sont les ADF et les groupes armés nationaux.
Au sud Kivu, dans le territoire de Calais, la société civile alerte sur le regroupement des miliciens Maïmaï Raïa Mutomboki dans le village de Kachiri et dans le groupement de Mubuku. Les membres de ce groupe insécurisent déjà la population, selon la société civile qui signale le pillage de plusieurs biens des communautés locales. Une information confirmée par l'administrateur du territoire de Calais, Cynthia Bachizi, pour les détails.
Avant Katchiri, ces miliciens étaient retranchés dans le village de Ngokwe, toujours dans le groupement de Mubuku, considéré comme leur état-major général. C'est une zone située à plus de 80 km à l'ouest de Calais et Centre, non couverte par les FRDC. Dans leur progression, les éléments Raia Mutomboki se sont livrés à des actes de pillage. Delphine Birimbi, acteur de la société civile locale.
Nous venons d'enregistrer 25 chèvres pillées, 20 poules, 270 000 francs et plusieurs autres biens de la maison dans cet intervalle là de 4 jours par les Raia Mutomboki.
Pour Dede Mwamba, administrateur du territoire de Kalehe, le mouvement de ces miliciens n'est pas nouveau. Il pense que la situation sécuritaire dans son entité pourra s'améliorer, notamment lorsque les activités du nouveau programme DDRCS seront effectives.
C'est leur base depuis très longtemps là. Ils font les tours Ngokwe, Katchiri, ainsi que certains villages, là où il n'y a pas de FRDC. D'un moment à l'autre, la situation va redevenir à la normale. C'est-à-dire tous ces miliciens sont en train d'attendre le processus des DRCS afin de se rendre. Mais en attendant, il y a des petits mouvements qui s'observent. Mais l'armée et les services spécialisés s'organisent pour voir comment remettre l'ordre.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
L'évolution des opérations de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri et les différents besoins liés à sa réussite, ces points ont été examinés jeudi dernier au cours d'une réunion d'évaluation des opérations militaires de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Cette rencontre a regroupé le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général des FRDC, le commissaire général de la police, les gouvernements du Nord Kivu et de l'Ituri. D'autres ministres ont aussi été associés à cette évaluation. C'est en l'occurrence le ministre d'État au budget, le ministre des Finances, le vice-ministre de la Justice et celui des Mines, ainsi que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui présente un condensé de cette réunion dans cet extrait que nous propose Billy Van Lutumba.
Vous savez qu'au mois de juin dernier, le président de la République s'est installé dans le Nord Kivu pour suivre de près l'état de siège que nous avons décrété. C'est la première décision majeure de notre gouvernement. Et il y a deux semaines, le Premier ministre a séjourné là-bas pour une mission d'inspection pour voir comment cela se passait. Et donc, il était question par rapport aux revendications que nous avons entendues et aux différents besoins liés justement à la réussite des opérations dans le cadre de l'état de siège, de faire le point, de faire l'évaluation. C'est ainsi que à cette réunion, on a associé les gouverneurs militaires qui sont venus spécialement pour donner les éléments frais du terrain qui permettent au gouvernement de mieux circonscrire la nature des besoins pour le moment et de voir comment continuer. Vous savez que nous sommes guidés par un triptyque, les opérations militaires, la sensibilisation et la démobilisation. Ce sont donc les trois points principaux qui ont été abordés durant ces échanges.
D'envoi hier vendredi à Lubumbashi des assises des états de l'enseignement supérieur et universitaire, une occasion pour les participants de réfléchir sur le système éducatif et de projeter l'avenir en vue de son amélioration pour répondre aux besoins de la société. Les détails avec Jean Gandou.
Ces états généraux interviennent 25 ans après les derniers. Ils réunissent les participants venus de presque toutes les provinces. Pour le président de la conférence provinciale des chefs d'établissement du Haut-Katanga et recteur de l'UNILU, ces assises sont historiques dans ce sens qu'elles vont plancher sur le système éducatif. Une opportunité pour se poser des questions du genre, d'où vient l'enseignement universitaire, où se trouve-t-il, où doit-il aller? Tout cela dans le but de relever ce secteur, le redresser, le réqualifier en vue de son innovation. Pour le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ces états généraux doivent susciter une réflexion sans complaisance pour remettre sur les rails ces secteurs gangrénés par de nombreux maux, dont le clientélisme, le tribalisme et autres. Les participants vont donc jeter les bases pour une bonne refondation du système d'enseignement afin de créer une adéquation entre l'offre des universités et établissements d'enseignement supérieur et le marché de l'emploi. Notons que ces assises se poursuivent en plénière et en commission. À l'issue des travaux, les participants devront présenter des recommandations pour la refondation du système d'enseignement universitaire qui doit être compétitif et débarrassé de toutes les tares qui freinent son développement, a indiqué le ministre Moïse Ndonzangi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au Kasaï central, les assistants et administratifs de l'Institut supérieur de Kamwecha réclament le paiement de leur salaire. Dans un mémorandum adressé au gouvernement central, ils indiquent que depuis plus de 3 ans, ils ne sont pas payés alors qu'ils sont matriculés. Ils demandent également une enquête sur les frais de fonctionnement de leur institution détournée. Un extrait de leur mémorandum lu par l'un d'eux dans ses propos recueillis par François Kadima.
Nous sollicitons l'implication du gouvernement central autour de nos matricules qui ne sont pas payés plus de 3 ans. Nous demandons au gouvernement central de nous venir en aide, car plus de 3 ans que les enseignants de cet institut supérieur pédagogique ne benéficient pas de leur salaire. Soit 6 agents qui se réjouissent de leur salaire et les autres non, soit 39 agents de la première liste non payés, soit 13% de ceux qui sont payés et 87% de ceux qui ne sont pas payés. Ainsi, pour vous rendre un travail de qualité et lutter contre les antivaleurs, nous vous prions de nous payer et nous vous suggérons qu'une enquête soit urgentée par IGF autour de 25 millions de francs congolais détournés par un inconnu dans les comptes de l'ISP Kamwesha.
Contacté, le directeur général de l'ISP, Kamwesha, a reconnu la première revendication pour laquelle il indique avoir écrit à Kinshasa, mais il rejette les allégations sur le dossier lié au détournement de frais de fonctionnement de son institution. Toujours dans les secteurs de l'enseignement, l'année scolaire 2020-2021 appartient désormais au passé depuis le mercredi 8 septembre dernier, après la proclamation des résultats aux élèves. Dans la province du Maniema, le directeur de la province éducationnelle Maniema 1 s'est dit satisfait de voir cette année toucher à sa fin, malgré les difficultés causées par le coronavirus. Nestor Mtumba Ndaye reste convaincu que les efforts seront fournis pour maîtriser cette pandémie, afin que les cours ne soient pas perturbés l'année prochaine. Il prodigue ici quelques conseils aux parents, aux enseignants et aux gestionnaires pour une bonne préparation de l'année scolaire 2021-2022. Nestor Mtumba Ndaye est au micro de Florence Kiza.
Quand l'année scolaire se termine, nous avons un seul conseil à donner à tout le monde, aux parents d'abord. Attention, maintenant, tous nos élèves sont à votre charge. C'est à vous maintenant de bien les encadrer pendant ces 1 mois de vacances, parce que c'est souvent pendant les vacances qu'on connaît parfois des dérapages. Surtout avec mes élèves filles, attention, c'est le moment où on peut vous tromper et vous tomber dans le piège, attraper des grossesses non désirées. Attention, attention. Et quant au chef d'établissement, vous savez que quand on termine l'année scolaire, directement on pense aux travaux de fin de l'année scolaire qui sont le palmarès et le rapport de fin d'année scolaire. Vous, enseignant, vous savez, un enseignant, c'est quelqu'un qui se forme chaque jour, auto-formation. Et pendant ce temps, vous devez lire, vous devez voir comment vous allez commencer l'année scolaire prochaine avec de nouvelles notion dans votre tête. Je suis satisfait parce que l'année avait commencé avec beaucoup de problèmes depuis décembre et nous l'avons terminé en beauté. On a pu terminer ce qui était prévu. Nous espérons que Dieu nous aidant, peut-être l'année prochaine il n'y aura plus de fermeture de classe, qu'on maîtrise quand même ce coronavirus qui dérange tout le monde et je suis vraiment satisfait.
Prochaine marche de la coalition Lamuka, un mémo adressé au procureur de la Cour pénale internationale a été déposé hier vendredi à La Haye aux Pays-Bas par une délégation de cette plateforme politique composée de membres des partis politiques SID de Martin Fayulu et Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito. Selon Albert Mukulubundu, chargé des relations extérieures de Lamuka, qui livre l'information à Radio Kapi, l'objectif de ces mémos est de demander au procureur de la CPI de documenter toutes les violations de droits de l'homme qui seront enregistrées au cours de la marche qui sera organisée le 15 septembre prochain. C'est là pour amorcer des éventuelles poursuites contre leurs auteurs. On écoute Albert Mukulubundu, joint par Alain Young.
Ce moment a pour objectif de mettre le procureur et ses services en alerte. Comme vous le savez, la Mouka organise le 15 septembre une marche pour dire non à la fraude électorale en cours en République démocratique du Congo, non au glissement, non surtout à la politisation de la CENI. Et par expérience, les autorités de la RDC s'arrangent très souvent à réprimer les marches pacifiques, alors que la Constitution nous donne le droit de manifester pacifiquement dans le respect des lois. Donc, nous avons tenu à alerter le procureur, qui sans doute, avec ses services, suivra de près ce qui va se passer le 15 et même après, pour voir s'il y aura violation de droits humains, s'il y aura répression, et ils pourront alors mener les enquêtes pour identifier les responsables, les poursuivre en tenant compte de ce qui s'est déjà passé au Congo, en Afrique et ailleurs.
Pour l'instant, tous nos efforts pour avoir la réaction du ministre des Droits humains n'ont pas encore abouti.
Actualité internationale.
Fin de mission pour la délégation CDAO dépêchée en Guinée après le coup d'état militaire qui a renversé Alpha Condé dimanche dernier. Les ministres des Affaires étrangères du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et du Nigeria ont quitté Conakry hier soir. Ils ont rencontré le colonel Mamadi Doumbouya à la tête du Comité national de redressement et de développement qui a pris le pouvoir. Comme elle le demandait, la délégation a pu voir Alpha Condé. Sachez par ailleurs que l'Union africaine suspend elle aussi la Guinée de toutes ses activités après ce coup d'État. L'ancien premier ministre ivoirien Charles Konan Bani est décédé hier vendredi. Il avait été évacué vers Paris samedi 4 septembre dernier de suite des complications liées au Covid-19 où il s'est éteint à l'hôpital américain de Neuilly. Âgé de 78 ans, il fut un personnage central de la scène politique ivoirienne dans l'ombre de trois grands qu'il a servi successivement.
L'invité.
Comme annoncé, l'invité de la rédaction ce matin est Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Avec elle, nous revenons sur sa visite à Bénin, accompagnée d'une forte délégation du leadership de la mission onusienne. Il a beaucoup été question de la sécurité tout au long de sa visite, alors que les troupes onusiennes sont engagées aux côtés de l'armée congolaise dans les opérations conjointes contre les groupes armés dans la région. Bintou Keïta s'entretient avec André Kitenge.
Madame Bintou Keïta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Beni depuis mercredi et avant cela, vous étiez en Ituri, accompagné d'une importante délégation des responsables de la MONUSCO. Qu'est-ce qui explique le déplacement de tout le leadership de la mission dans cette région?
Alors, une chose principalement, c'est la mise en place de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu.
Alors, vous arrivez dans la région de Beni à un moment où des opérations militaires conjointes FARDC et MONUSCO sont menées contre les groupes armés. Quelle est concrètement la contribution de la force de la mission onusienne?
Alors, cette force onusienne, elle appuie l'armée congolaise dans le sens de mettre en place des planifications conjointes pour des opérations offensives qui déterminent comment attaquer l'ennemi avec un risque bien évalué afin de pouvoir atténuer ces risques pour la protection des populations civiles. Et dans ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura un accompagnement logistique, un accompagnement en vivres, rations, fuel, une évacuation des blessés, une évacuation de ceux qui malheureusement perdent la vie au cours des opérations, donc des personnes décédées. Et il y a aussi des partages d'informations en termes d'intelligence, et également, dans certains cas, lorsque c'est décidé conjointement, des appuis feu, et dans certains cas, des positionnements tactiques qui permettent à la force de la MONUSCO de maintenir pendant une certaine période les lieux où les FARDC vont après ADF et d'autres groupes armés.
La semaine passée, un convoi civil escorté par des casques bleus et des militaires congolais a été attaqué à Ituri. Depuis, on sent monter un sentiment de colère au sein de la population. Quel message souhaitez-vous adresser aux habitants de la région?
Alors, tout incident est toujours à déplorer, c'est clair. En même temps, il faut qu'on se rappelle que les conditions de cette fameuse route RN4, pour lequel RN4, mais aussi la RN27, où des moments on pouvait passer, des moments on ne pouvait pas passer, et en fait c'était des routes qui étaient inaccessibles. Donc quand la décision a été faite de faire ces convois pour permettre le trafic sur cette RN4, ça a pris du 7 août jusqu'au 1er septembre pour qu'on ait le premier incident. Et là, c'est plus de 1500 véhicules qui sont passés tous ces jours-là, mais moi, je n'ai vu personne qui est venu dire « Ah, c'est positif, combien de véhicules ont pu passer tranquillement, les camionneurs, les motards qui font le transport des personnes, les véhicules privés qui ont passé sur ces routes sans que rien ne se passe. » Et le jour où cet incident est arrivé, encore une fois, je suis la première à déplorer que ce soit arrivé, on ne se rappelle que de ça. Et malgré tout, il y a eu un second incident, si ma mémoire est correcte. On a tiré nos leçons, de comment il faut améliorer la taille des convois et aussi comment renforcer la protection pour ces convois en sachant que on ne va pas se laisser intimider par le fait qu'il y a eu deux incidents sur une période qui a été aussi longue sans qu'il y ait aucun incident. Donc moi j'invite tout un chacun et chacune à se rappeler qu'il n'y a pas de risque zéro dans aucune opération humaine et que quand on a des accidents, ces accidents doivent nous amener à faire de l'introspection pour voir comment améliorer, comment on fait les choses la prochaine fois. Mais il ne faut pas tout détruire. C'est comme si, je ne sais pas moi, vous avez une vitre qui est cassée, vous avez une maison et vous avez plusieurs vitres. Et parce que vous avez une vitre qui est cassée, vous décidez de casser toutes les autres vitres.
Madame Bintou Keïta, je vous remercie.
Merci.
C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.